Rien n'est joué, une production de Madeleine Caboche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et je ne suis pas seule pour vous offrir cette émission puisque tout à l'heure il y aura la partie reportage signée Lucas Torrent. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Deux invités ce matin, deux invités puisque nous allons poser cette question, y a-t-il une vie après la mort? C'est une des questions posées par le film Médium d'un monde à l'autre, tourné par la réalisatrice Denise Gillian, qui est notre première invitée. Bonjour Denise Gillian.
Bonjour.
Et puis ce film est accompagné d'un livre que vous avez écrit tous les deux, d'ailleurs si j'ai bien compris Denise. Hein,
voilà, de... Plume c'est surtout elle.
Voilà, mais enfin vous l'avez construit ensemble j'imagine. Hein, et ça s'appelle aussi Médium d'un monde à l'autre. Communiquer avec les esprits, expériences et témoignages, c'est publié chez Favre et écrit aussi par Alain Maillard. Bonjour Alain Maillard.
Coucou.
Alain Maillard qui vient faire des heures supplémentaires puisque voilà, ça vous fait venir tôt Alain Maillard ce matin.
Ah oui, là j'ai pas eu beaucoup de temps entre le lever et votre émission, mais c'est avec plaisir.
Alain Maillard, on le redit, pour ceux qui vivraient dans un blocos, je ne sais où, vous faites la ligne de cœur maintenant. Vous êtes journaliste bien sûr avec un certain nombre d'autres ouvrages, mais ligne de cœur ces jours-ci. Ce qui nous posera aussi des questions. Est-ce que vous avez des auditeurs qui sont revenus sur le sujet ces derniers temps, Alain Maillard, le soir ?
Eh bien non, en fait je m'attendais peut-être à des allusions. J'ai un peu réfléchi au positionnement évidemment que j'aurais dans ce cas, mais jusqu'à maintenant je n'ai pas été interpellé, non.
Alors ce qu'il faut dire c'est que, Denise Gillian, ce film fait un tabac. Hein. Vous me citiez un nombre d'entrées, peut-être que ça ne parle pas aux auditeurs, mais quand on est dans le milieu cinéma, on sait que c'est beaucoup de gens. C'est 3900 personnes pour la première semaine de projection de Médium. Hein. Donc un tabac.
Oui, c'est surtout très impressionnant de devoir refuser des gens quand on est là en séance spéciale, quand on est présente avec la médium Céline. C'est vrai qu'on a dû dédoubler les séances. Alors, ça fait super plaisir parce que c'est pas gagné d'avance hein, quand on est documentariste et qu'on sort un doc en salle. C'est un grand bonheur, je dois dire, ces jours.
Et puis, Alain Maillard, le livre?
Ben, écoutez, il a été édité à 3000 exemplaires et on vient d'avoir la bonne nouvelle qu'il y a une réédition. Donc, ça veut dire que ça part bien.
Alors, bien sûr, c'est un documentaire et on sait que les spectateurs n'ont pas forcément une grande curiosité pour les documentaires. Mais là, bon, on sait que c'est un sujet qui parle. Nous, si on fait d'ailleurs cette émission aujourd'hui, si on fait une émission sur le sujet, on sait qu'on va être envahi de mails et de réactions. Vous disiez, je ne sais plus où, dans quel article, que vous aviez eu l'impression de prendre des risques en faisant ce sujet. Pourquoi ?
Alors, étonnamment, c'est un sujet beaucoup plus tabou que la prison, par exemple. Mon précédent film, hein, qui donnait la parole à des détenus condamnés à perpétuité, était mieux accepté, c'était presque plus politiquement correct que le sujet de la médiumnité qui touche à la spiritualité. Et ça, je l'ai découvert en cours de route, parce que quand j'ai choisi ce sujet, pour moi, la question de la vie après la mort, c'est plutôt une question existentielle. Normal que tout le monde devrait se poser. Enfin, donc je suis tombée un peu de la lune en découvrant que oui, c'était très polémique, très tabou et presque politiquement incorrect.
Pourquoi, à votre avis ?
Bon, on est dans une société qui est quand même très matérialiste, hein, où on écoute les scientifiques qui tentent à prouver les choses en les répétant, en les observant, etc. Et on est issu de cette éducation-là, qu'on le veuille ou non, on est influencé par ça. Donc c'est vrai qu'il y a peu de place actuellement pour tout ce qui est spirituel. Les églises sont désertées aussi. On fait peu de place à l'invisible et encore moins de place quand on ne comprend pas.
Mais en même temps, les livres sur la spiritualité pullulent et dans les soirées, quand même, c'est un sujet qu'on aborde même quand on a plus de 20 ans, c'est-à-dire pas forcément le moment où on refait le monde, mais c'est un sujet qu'on aborde très souvent. Donc pourquoi, je comprends pas bien ça, pourquoi c'est tabou tout à coup au cinéma alors que ça nous occupe tout le temps?
Alors j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre le besoin qu'ont les gens, qu'on a nous tous, hein, parce que je me mets dedans, de redonner du sens, d'une façon ou d'une autre. Et redonner du sens, ça peut passer aussi par une quête spirituelle. La médiumnité, c'est une petite partie de ça, bien évidemment. Et puis, il y a les milieux scientifiques, il y a les milieux des médias aussi, des milieux où il est encore, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication, de bon ton de dire qu'on est un peu crédule, un peu naïf, à partir du moment où on dit qu'on y croit, ou à partir du moment où on dit que c'est sérieux que de s'intéresser à la médiumnité. C'est comme comme si c'était fan, quoi. C'est rigolo, c'est voilà, mais il faut être un peu naïf. C'est ça les réactions que j'ai eues. Bah surtout, je dois dire dans mon milieu ou dans le milieu scientifique
dans le milieu
quand
cinéma.
J'ai préparé et scientifique quand j'ai préparé le film. C'est-à-dire dans le grand public, vous avez absolument raison. C'est vraiment comme si on amenait de l'eau dans le désert. Il y a quelque chose comme ça. Alors pas parce que c'est la médiumnité, mais parce que je crois qu'à travers la médiumnité, on amène du sens. Parce que la mort, c'est vrai que c'est notre avenir à tous, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Mmh. Donc, on se questionne et voilà,
alors,
les gens sont intéressés.
Ça veut dire, parce que j'ai bien compris que vous accompagnez le film, hein, c'est-à-dire que vous êtes présent, si j'ai bien compris, à
oui.
beaucoup de projections. Qu'est-ce qui vous revient, justement? Parce que j'imagine que les rationnels vont aussi voir le film en vous attaquant, non?
Alors, ce qui nous revient principalement, et j'en suis très contente, c'est, grâce à la protagoniste principale, Céline, un sentiment chez le public de grande simplicité, de grande clarté, de grande authenticité, je dirais. La plupart des gens sortent du film en disant « Ah, mais c'est si simple, finalement, de prendre soin de nos morts, de parler avec l'invisible, peut-être même d'écouter ses guides spirituels, si on y croit. Hein. » Il y a quelque chose comme ça, tout d'un coup, qui est interpellé, parce que la médium est très... elle a les pieds sur terre, c'est une mère de famille, pleine de bon sens. Puis elle est très lumineuse, elle a quelque chose, effectivement, elle ne laisse aucune place à l'ombre, au mal.
Puis elle se la joue pas, je suis mystérieuse. Sérieuse, je mets de la fumée pour que ça le fasse un
non.
peu. Hein
non. non, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est que c'est vraiment ouais. quelqu'un de très, ouais, de très simple, enfin, pleine de bon sens et de lumière. Donc je pense qu'elle est très rassurante et elle casse aussi tous les préjugés, les a priori que le cinéma véhicule sur l'après-vie. On est rempli de peur, d'images véhiculées par ces films d'Hollywood, les morts vivants, etc. Et ces peurs, finalement, je crois, tombent en grande partie quand les gens voient le film, grâce à Céline et à tous ces médiums anglais. Il n'y a pas que Céline, mais il y a toute une branche comme ça de médiums formés principalement par le collège Arthur Findlay qu'on voit dans le film, qui sont vraiment, qui font pas de place à la négativité. Donc du coup, ça rassure.
Denise Gillian et Alain Maillard, en regardant le film et en sachant qu'il y a énormément de gens dont je suis qui sont sceptiques, je me disais, mais au fond, on nous reproche parfois d'être sceptiques. Vous le faites d'ailleurs, vous dites quelque chose du genre, enfin, c'est s'ouvrir aussi hein, d'essayer de comprendre ce monde-là. Mais en même temps, je me disais, mais au fond, moi, ça m'arrangerait d'y croire. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur? J'ai pas peur.
Alors, complètement, moi, j'étais athée, sceptique, indécrottable, hein, pendant des années.
C'est vrai.
Oui.
Vous me promettez ça.
Ah oui, oui, oui. oui. Premier juré, croix de bois, croix de fer, c'est
genre. Je
l'atteste. Oui.
Jusqu'à il y a 10 ans, quand on a fait ce premier film avec Alain, aux frontières de la mort.
Donc, sur le moment du coma, où on voit ce fameux tunnel, on sait, ça s'appelle, on dit
Near Death Experience, voilà, les témoignages de mort imminente, on appelle ça en français, le terme pas très, très joli.
Donc, c'est-à-dire qu'on va vers le monde de la mort, puis on en revient. Puis on raconte. Hein,
oui,
c'est...
puis les médecins décrètent notre mort physique.
Voilà.
Donc c'est plus que du coma, c'est vraiment un petit voyage dans la mort qui dure à tout casser 2-3 minutes, parce que sinon on n'en reviendrait pas.
Donc comment l'athée Denise Gillian commence à croire à toutes ces choses?
Alors justement, en enquêtant pour ce film aux frontières de la mort, à force d'entendre des gens qui relataient cette survivance finalement de l'esprit ou de la conscience, alors que les médecins décrètent l'électroencéphalogramme plat, respiration coupée, cœur qui ne bat plus, donc la personne elle est vraiment morte. Et surtout, l'électroencéphalogramme plat veut dire que le cerveau ne fonctionne plus. Or, les gens qui reviennent d'une telle expérience racontent ce qui s'est passé dans la salle d'opération, par exemple, avec une précision qui fait qu'on ne peut pas mettre en doute le fait que leur conscience survit à cette mort du cerveau.
Donc là, vous avez été convaincue
à ce moment-là, j'ai été convaincue que... on se délocalise de notre corps les 2-3 minutes qui suivent le décès physique. Ce qui ne veut pas dire qu'on survive à plus long terme. Donc là, deuxième question qui s'est posée, je me dis oui, d'accord, mais à plus long terme, qu'en est-il? Alors bien entendu, on peut lire tout un tas de choses, hein, des différentes religions et entendre tout un tas de choses, mais des témoignages, on n'en a pas de gens qui reviennent. Et j'ai cherché qui pouvait relater ça, qui pouvait me donner un petit bout de réponse. À part les médiums, j'ai trouvé pas grand monde.
Et voilà, il se trouve qu'il y a des gens là autour de nous qui disent que ces personnes sont en contact avec l'au-delà, peuvent décrire un peu cet au-delà. Bah, allons les écouter, allons découvrir leur monde. C'est simplement ça la démarche au départ de ce film. Et
donc
de,
vous aussi, Alain Maillard, athée, résistant ou quand même pas tout à fait comme Denise à l'époque?
Non, moi j'étais plutôt un sceptique dans ce que j'appellerais le vrai sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de position convaincue ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai toujours été assez... intrigué par les phénomènes un petit peu curieux, surtout depuis que à l'adolescence, ben par les hasards des circonstances, par des amis, j'avais fait l'expérience de faire tourner les verres, vous savez.
Oui, ça a marché pour moi. J'ai essayé, ça marche pas. Alors
ça marche pas.
Non, les tables non plus.
Alors moi,
ça marche jamais.
Dans les multiples expériences que j'ai faites à cette époque-là, le verre effectivement bougeait selon mu par une force inexplicable.
Vraiment.
C'est-à-dire qu'après on peut pas tirer des conclusions absolues, oui, on peut pas dire bon voilà c'est la preuve. Il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir des forces de notre subconscient que la science ne connaît pas non plus,
mais qui n'aurait rien à voir avec l'émanation de notre pensée qui serait là
monde.
Sur le moment, oui.
Voilà, qui sait. Mais je veux dire, en tout cas, ça m'a toujours laissé un peu cette idée qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, que la science n'explique pas, et que soyons prudents, ne sautons pas aux conclusions, mais Tiens, peut-être qu'un jour ça vaut la peine d'explorer ça. Puis voilà, Denise étant un excellent moteur, j'ai sauté dans le train.
Alors Denise, vous aussi, après, donc vos portes s'ouvrent et vous commencez à devenir, comme on dit, sceptique, agnostique, enfin en tout cas, des expériences précises qui vous sont arrivées.
Alors, ça c'était plus tard. Quand on a fait le film Aux frontières de la mort, non, il m'est rien arrivé. J'ai jamais vécu de ND ou quoi que ce soit de similaire.
Même de table ou qui tourne.
Mais plus tard, oui. Alors, j'ai été prendre une séance de médiumnité après un décès dans ma famille. Donc, je connaissais pas du tout. C'était vraiment la première fois que je le faisais. Et je dois dire que j'ai été très, très perturbée, très touchée parce que la médium m'amenait pour moi la preuve que oui, elle avait accès à des informations qu'elle ne pouvait pas avoir autrement, notamment quand elle a décrit physiquement un défunt, quelqu'un qui m'était très proche, et qu'elle a pu dire comment il était décédé, combien il avait d'enfants, dans quelle maison il vivait. C'était tellement précis que
ce que une des suppositions qui est faite quelquefois, c'est-à-dire c'est l'émanation de ma pensée. Je pense tellement fort à ces gens-là que quelqu'un d'hypersensible le lit. Enfin, c'est bateau, on vous rétorque toujours ça, mais vous allez quand même répondre.
Mais alors absolument, et il n'y a pas que ça, parce que la question là qui se posait, c'était est-ce que le médium capte effectivement dans un champ électromagnétique qui nous accompagnerait et qui pourrait contenir une mémoire, mais même celle de nos ancêtres, une mémoire à notre insu. Ou alors est-ce que le médium va chercher de l'information dans une sorte de disque dur externe, une bibliothèque akashique ou un inconscient collectif selon Jung.
Une bibliothèque
akashique, une bibliothèque immense, invisible, où on pourrait aller chercher de l'information tous.
C'est un mot sanskrit. L'akasha.
Merci. L'akasha, oui. Peut-être, il y a un disque dur externe qui contiendrait la mémoire du monde dans laquelle les médiums pourraient aller puiser de l'information. Ou alors, effectivement, ils sont en lien avec des défunts et des guides spirituels. Alors actuellement, pour avoir quand même vu une cincantaine de médiums au travail lors de la préparation de ce film, je suis plutôt encline à croire que oui, ils sont en contact effectivement avec des entités, des guides ou des défunts. Ça parce que l'émotion n'est pas la même, et l'émotion que j'ai observée chez d'autres, je parle pas de la mienne là, n'est pas la même quand le médium dit être en contact avec un défunt. L'émotion, la teneur même de l'atmosphère dans la pièce se modifie. Bon, alors ça c'est quelque chose d'inexplicable, je peux pas être plus précise là-dessus. Mais il y a quelque chose de cet ordre qui me fait dire que oui, on sent des présences, il y a quelque chose d'autre que simplement de la télépathie.
Alain, un commentaire avant qu'on écoute la première chanson à ce que vient de dire Denise.
Moi, je suis un peu envieux parce que personnellement, je sens pas grand-chose. Mais si vous voulez, moi, j'ai pas par formation, par mon métier aussi, j'ai une approche extrêmement analytique et cérébrale. C'est peut-être une qualité, ça
peut
aussi être un défaut parfois.
Que vous soyez discrédité.
Non, c'est pas un calcul. C'est ma façon naturelle d'être, enfin, ou acquise, mais tellement profondément acquise que je m'en débarrasse pas facilement. Mais moi, j'ai plutôt acquis la conviction, si vous voulez, qu'il se passe tellement de choses étranges qu'il devient plus invraisemblable que tout ça n'existe pas et plus vraisemblable que ça existe vraiment.
Alors, on analysera plus longuement dans un deuxième temps quelles sont les clés, monde spirituel, CERN qui découvrait je ne sais quelle physique quantique, avec une découverte récente qui nous a intrigué un peu.
Oui, la possibilité d'aller plus vite que la vitesse de la lumière qui chamboule pas mal les théories existantes.
Bon, donc on a de quoi faire et quoi se raconter. Tout à l'heure, après la première chanson, puisque vous l'avez dit, j'ai pas décrit le film, j'ai supposé que tout le monde allait le voir ou l'avait vu, donc que c'est en effet une enquête, mais surtout qui repose sur un personnage, sur une femme médium qui s'appelle Céline Bozon, qui vit à Martigny. Et nous avons eu envie, grâce à Lucas, d'en savoir plus sur sa façon de ressentir ce tournage et pourquoi elle avait accepté. Donc ceci après la première chanson. C'est Rien n'est joué, c'est jusqu'à 11h.
Rien n'est joué sur la première.
Miroir, mon miroir, t'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui tout va bien. Ne vois-tu pas que tout bien réfléchi, je me plais sans fond de teint, c'est parti.
Qu'est-ce qu'elle s'imagine, qu'est-ce qu'elle croit, elle qui passe tant de temps devant moi. Ne pars pas sans mascara, mets ton phare à paupières, sinon sans ça qui te reconnaîtra.
On a plein de dames crochues, partout, dessous, dessus. Avec lui je cours à pas de géant, c'est évident.
Mais de qui tu causes loin de moi, viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a pas la dame crochue. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. On a plein d'atomes crochus, partout, dessous, dessus. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. Et c'est navrant, alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Édouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un.
Ah, j'ai le bout de la langue. Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Je l'adore, Édouard Baird. Édouard Baird dont on entend le commentaire et qui joue un rôle dans Le Poulet aux Prunes, qui est ces jours-ci sur les écrans, le magnifique Édouard Baird qui chantait avec, comment s'appelle-t-elle, Babette. Je redis au passage qui sont mes invités, Denis Gillian, Alain Maillard, médium, d'un monde à l'autre. C'est à la fois un livre et un film. Juste, si vous voulez en savoir plus sur les sorties, vous allez sur www.medium-lefilm.com et sachez que le 20 novembre, c'est à Morges, le 21 à Nyon et le 24 à Martigny.
Ça, c'est pour les séances spéciales, mais il y a aussi des projections tous les jours, par exemple.
Tous les jours au Bellevaux, à Lausanne. Oui. Hein, et il faut soutenir ce cinéma qui a une belle programmation, mais qui est menacé, comme tous les petits cinémas. Luc, ah oui, la route avant Lucas. Oui, merci Christian.
Infotrafic RSR.
Eh bien, l'autoroute Sion-Martigny est à nouveau ouverte entre les jonctions de Ride et de Saxon en direction de Martigny. Donc Céline, le personnage principal de ce film médium d'un monde à l'autre, est effectivement très charismatique, très lumineuse et qui fait pas trop de chichi avec cette force qu'elle a en elle. Vous l'avez rencontré, Lucas.
C'était lundi à Martigny, donc ouais, vraiment quelqu'un de chaleureux et puis de simple et sincère. Elle est venue me chercher à la gare, déjà ça c'est toujours sympa. Puis on est allé là où elle exerce, donc c'est une chambre presque nue, donc on l'a dit, il n'y a pas de tenture, il n'y a pas de chouette empaillée, il n'y a pas de boule de cristal, j'étais presque déçu. Donc un endroit très simple mais accueillant. C'était après une longue journée pour elle, elle a quand même pris le temps et j'ai commencé par lui demander si elle avait longtemps hésité à la proposition de ce documentaire.
Ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait quelques secondes où je me suis dit « Ok, si ce projet vient à moi, c'est que peut-être je peux y répondre. » Mais après, ça soulève encore plein d'autres questions et je pense que j'ai mis quand même quelques jours avant de répondre concrètement « oui » à Denise. Et c'est rigolo, dans une émission, je l'ai entendu dire « je me suis appliquée pour la convaincre » et je me souviens très bien que c'est vrai qu'elle s'est un peu appliquée pour me convaincre.
Elle avait quoi comme technique ?
Ah mais Denise, elle est tellement humaine. Pour moi, c'est une personne tellement chaleureuse que c'était. Je ne sais pas si elle avait une technique, mais elle avait une manière de parler de ce projet qui était tellement vivant. Et voilà, moi je me suis dit, ok, ça rejoint quelque chose que je crois juste. Ça veut dire que la médiumnité, ça existe. Ça veut dire que cette médiumnité, j'aimerais la montrer. Enfin, celle que je crois juste. Et aussi peut-être pour ramener un peu les pieds sur terre à plein de personnes qui se posent des questions complètement farfelues sur un métier qui, somme toute, est un métier qui a une technique et qui... Et voilà, moi, quand je sors d'ici, je suis déconnectée, je suis Céline, je vais rejoindre mes enfants, leur faire la popote.
Pour revenir à cette décision que vous avez prise, il y avait quoi comme barrière ou comme chose qui aurait pu vous faire dire non ?
Je pense qu'il faut avoir la confiance en soi dans un projet comme ça. Donc, je dirais qu'une des choses que j'ai faites, je me suis installée, j'ai fait une méditation pour moi, personnelle, où j'ai contacté mes guides, où je leur ai demandé, vous pensez vraiment sur ce coup-là que je peux activer quelque chose là ? Et c'était un oui clair, donc j'ai dit oui, clairement aussi à Denise, en me disant... Je sais que je vais passer par des étapes, des hauts et des bas. Je savais tout ça et je savais aussi qu'au moment où il sortirait, ça serait des vagues d'appels, d'emails, de choses comme ça. Et j'ai dit, waouh, je sais pas si c'est vraiment ça que je veux dans la vie. Mais à côté de ça, je pensais que j'avais une capacité à vulgariser tellement cette médiumnité que peut-être, oui, je pouvais apporter une connaissance toute simple à un large public. S'il y a un truc que j'aime pas trop, et n'importe quel thérapeute, n'importe quel médecin, n'importe quelle personne vers qui on va chercher un service personnel, je n'aime pas qu'on fasse un espèce de mystère autour d'une technique pour avoir un pseudo-pouvoir sur l'autre. Déjà, l'autre, il vient vous voir, il est en position de faiblesse, il vient chez vous. En plus, il a une demande, sinon il viendrait pas vous voir. Et ça me... C'est quelque chose qui me dépasse, quoi. On n'a pas besoin de ça dans la vie, quoi. On est tous des humains, puis on doit tous vivre.
Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu le documentaire et que vous êtes vu de l'extérieur ?
J'avais déjà fait du théâtre, et où j'ai des DVD de moi en train de faire du théâtre à la maison, donc je m'étais déjà vu bouger, parler. Et du coup, je me reconnais là-dedans, je fonctionne comme ça, je tords la bouche comme ça, je parle comme ça, je marche comme ça. Et oui, c'est moi, c'est mon allure, je me reconnais.
Et pour la séance, parce que moi qui ne connaissais pas du tout, en voyant le documentaire, je me suis dit, ben, c'est quand même super rapide. Vous commencez à parler en quoi, une seconde ?
C'est très fidèle, parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que je mets un quart d'heure à 20 minutes à me préparer avant chaque séance. Et au moment où je suis prête, c'est parti.
Donc le documentaire est fidèle ?
Oui. Quand elle m'a dit « on peut y aller » à la première personne, j'avais ce bandeau sur les yeux, je me suis dit « mais bravo Céline, il n'y a vraiment que toi pour te mettre dans une situation pareille. » quoi.
Céline Boson, quelque chose qui vous a peut-être fait hésiter, c'est vous saviez qu'il y aurait beaucoup de réactions.
Oui, j'ai beaucoup de réactions chaleureuses. Je me suis dit « ok, c'est vrai, c'est un gros challenge, mais je reçois vraiment beaucoup quoi, de ça. »
C'est un sujet... La médiumnité ou le monde des esprits, qui déclenche énormément de réactions, de réactions positives, d'intérêt, et puis aussi des gens qui, ça les agresse aussi, hein, beaucoup.
Mais je crois que ce qui suscite les réactions, c'est parce qu'en fait, on travaille avec le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est pas palpable, on peut pas le toucher, donc ça c'est très difficile déjà à expliquer. Et puis, en plus, si on dit qu'on travaille avec son âme, alors tout de suite, on pense religion, alors que ça n'a rien à voir. Je travaille avec mon corps spirituel pour entrer en contact avec d'autres corps spirituels. Donc, ça ne s'explique pas. Donc, c'est très difficile. C'est clair que, du coup, j'ai des réactions assez controversées. Une fois, des gens très chaleureux, j'ai eu des gens qui voulaient me toucher. J'ai dit, waouh, c'est pas du tout mon truc, en plus. Et d'autres personnes qui disent, mais c'est quoi cette fille, quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est bizarre, enfin, ouais. Mais j'arrive à comprendre les deux côtés, ça me choque pas. Je me dis, ok, on est tous différents, voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est ça qui suscite la réaction, c'est qu'on parle monde spirituel, monde des défunts, des décédés, des disparus, des morts, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est déjà un peu waouh, c'est le flash. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avec mon corps spirituel, mon âme, je peux entrer en contact avec d'autres âmes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient systématiquement dans le monde spirituel. Je peux aussi entrer en contact avec une personne qui est dans le coma, une personne qui est handicapée mentale. Je vous assure que son âme, elle n'est pas handicapée mentale, hein. Et puis dans le coma, moi j'arrive à discuter avec les gens qui sont dans le coma, la même chose que je discute avec vous aujourd'hui. C'est génial, ils peuvent au moins s'exprimer. Je peux aussi entrer en contact avec un animal, un végétal, spécifiquement les arbres pour moi. Voilà.
Vous imaginez que certaines personnes, quand ils entendent ça, ça va les faire ricaner ?
Mais moi j'arrive à comprendre que quelqu'un ricane de ça. Parce que si cette personne-là viendrait m'exposer ce qu'il fait comme métier, peut-être je ricanerais, je ne comprendrais pas son métier. Je veux dire, c'est un peu la même chose comme quelqu'un me dit « Est-ce que tu as conscience que c'est un peu bizarre et puis que pas tout le monde voit comme toi ? Et comment tu fais pour vivre ?» Ben, moi je réponds ben, « Comment tu fais pour pas avoir ?» Puis vivre tranquille quoi, parce que moi je ne saurais pas naviguer sur cette terre sans être comme ça. Je ne sais pas ce que c'est une vie différente.
Voilà, ça c'est le tambour avec lequel elle travaille souvent, hein, pour convier les guides.
Surtout pour nettoyer les lieux, nettoyer énergétiquement les lieux dans lesquels elle s'apprête à travailler.
Donc c'était Céline Boson-Sommaire, donc la médium principale du film de Denise Gillian. Denise Gillian et Alain Maillard qui sont nos invités ce matin. Un commentaire après votre rencontre, Lucas?
Non, je me dis même qu'en étant sceptique, dans le fond, c'est pas du tout agressif comme idée. Donc, c'est vrai que se dire que nos morts sont là, sont heureux, sont bienveillants et veulent nous aider, je vois pas en quoi c'est quelque chose qui pourrait nous agresser, même si on n'y croit pas. Donc,
Mais on pourrait même se poser la question si c'est trop beau pour être vrai. Hein. C'est la question qu'on pose d'ailleurs dans le livre, dans le dernier chapitre. C'est-à-dire que c'est tellement idéal le monde que décrit Céline Boson et d'autres médiums que des fois on se dit non mais attendez, c'est voilà. Il y a anguille sous roche quelque part.
Mais pourquoi Denis Gillian et Alain Maillard, pourquoi Denis serait-il forcément bienveillant, ces morts ?
Alors, je vous répète ce que Céline répond à ça et la plupart des médiums que j'ai rencontrés. Si le bien existe, le mal existe. Hein, il faut pas l'ignorer. C'est pas parce qu'on est mort qu'on est meilleur que de notre vivant. Par contre, ce sont des personnes qui font le choix de travailler avec la lumière. Avec le positif.
Les médiums
en question. Ouais. Donc si au fond, dans les propos, les messages qu'ils transmettent, etc., tout est bienveillant, amour, lumière, etc., c'est parce qu'ils ont fait le choix de ne travailler qu'avec la clarté, avec la positivité.
Et donc, ça
un
veut
peu
dire
comme
que...
la pensée positive. Ouais. Hein, voilà, on peut choisir de
son mais ça veut dire qu'il y a, s'il y a un esprit négatif qui tourne autour de Céline Boson, elle dit non, repartez chez vous.
Pas du tout. Pour elle, il n'y a pas d'esprit négatif. Il y a des esprits en souffrance. Et par exemple, elle racontait, pas plus tard qu'hier, lors du débat, elle racontait qu'elle a dû nettoyer une maison qui était habitée par des esprits errants. Et l'un de ces esprits était très violent dans sa façon de se manifester. Il faisait des bruits terrifiants. Et du coup, tout le monde disait, oh là là, c'est affreux. Puis il y a la machine à fantasmes, hein, l'imagination qui se met en route, et puis plein d'images effrayantes qui arrivent. Elle, ce qu'elle dit, c'est que finalement, c'est de la maladresse. Cet esprit en souffrance avait besoin de se faire entendre parce qu'il avait besoin d'aide. Il ne savait pas comment pratiquer. Puis nous, on ne les entend jamais, on ne les entend pas, on n'est pas formé pour, on n'est pas dans des cultures en plus où on les prend en considération. Donc ce pauvre monsieur, en fait, faisait déplacer des armoires juste pour appeler au secours, pour qu'on l'aide. Donc pour Céline, c'était très facile. En 2 minutes, elle l'a fait partir. Il fallait l'identifier et lui faire comprendre qu'il était décédé. Il n'avait pas compris. C'était aussi simple que ça.
Parce qu'ils sont difficiles à la comprendre, les esprit.
Alors, ce qu'elle dit, elle, de nouveau, répercuter, sans savoir à elle. Lors d'un décès très rapide, par exemple un accident de voiture ou une chute en montagne, quelque chose de violent, de très rapide, oui, il peut arriver qu'ils ne prennent pas conscience tout de suite du décès, ou alors qu'ils ont encore quelque chose à dire, à transmettre, une affaire à résoudre, qui fait qu'ils ne partent pas. Ils ont besoin d'un médium, justement, pour transmettre de l'information et résoudre cette dernière chose.
Lucas ?
Mais si alors les médiums ont que des choses positives parce qu'ils vont vers la lumière positive, on pourrait imaginer une sorte de médium du mal qui lui cherche le négatif et qui le trouverait ?
Alors absolument, Oui, et spontanément, vous me faites penser au vaudou, je sais pas, hein, assez, y a des gens qui vraiment se sentent agressés, possédés, et que sais-je. Alors, il y a un anthropologue de la médecine qui a beaucoup étudié ces phénomènes, principalement chez les guérisseurs, mais qui dit quelque chose de très intéressant. Il s'agit de Jean-Dominique Michel, donc ethnologue de la médecine à Genève. Lui, ce qu'il dit, c'est que si on a subi, si on a été une victime dans son enfance, on a tendance à répercuter cet état de victime à l'état adulte aussi. Et de ce fait, on est très susceptible d'être embêté par de la négativité et de projeter finalement sur des poupées vaudou, des esprits errants et je sais pas quoi, des trouilles ou une parano qu'on n'a jamais résolue mais qui provient de l'enfance. C'est pas lié au vaudou, c'est pas lié à l'esprit errant. C'est une projection qu'on fait, comme les enfants qui ont peur des loups. Bah, les esprits errants, ce serait le loup des adultes.
Mais Alain Maillard, donc je m'adresse au journaliste cette fois, je redis que à la fois dans le livre et dans le film, ce que je n'ai pas vu tout de suite, d'ailleurs j'ai dû le regarder une deuxième fois, c'est effectivement un parcours où l'on montre des faits et on montre aussi des gens qui sont réticents. C'est-à-dire l'idée c'était de faire des séances de médiumnité aussi avec des gens sceptiques, d'ailleurs principalement avec des gens sceptiques dans le film. Hein.
Voilà, alors la confrontation est une démarche imaginée par Denise, voilà. Peut-être elle en parlera mieux que moi, oui. Mais si vous voulez, l'idée principalement, il nous est reproché parfois que dans cette démarche, on n'a pas donné la moitié du temps de parole aux opposants, si vous voulez, ce qui serait la démarche d'une enquête.
Alors que là, c'est un engagement.
Autre parti pris. Parti pris, c'est le parti pris de l'exploration. On explore un monde, on ne le juge pas, on ne fait pas de la propagande pour
tout
la médiumnité.
Tout en étant quand même
On écoute avec bienveillance et intérêt et ouverture, et on observe aussi des choses, on restitue ce qu'on a observé, ce qu'on a entendu, et ensuite à chacun de se faire son opinion. Il paraissait un peu vain, si vous voulez, d'avoir le scientifique matérialiste qui vient nous dire non, tout ça c'est de l'imagination. Ben, on sait qu'ils vont dire ça et ça ne va pas apporter grand chose. Il n'y a pas de recherche scientifique sérieuse contre la médiumnité, ça n'existe pas.
Mais alors pourquoi, à votre avis, ça aussi c'est étrange, il n'y a pas de chercheurs qui se sont emparés sérieusement de l'affaire.
À une exception près que nous évoquons, qui est dans un institut aux États-Unis, mais effectivement, parce qu'il y a un a priori que ce qu'on ne peut pas prouver n'existe pas. Ce qui, à mon avis, n'est pas du tout rationnel comme logique. Mais voilà, on considère ça, que ces phénomènes, n'ayant pas de théorie explicative possible dans l'univers scientifique,
actuel,
forcément, ça ne peut pas exister.
Vous l'y complétez, Dominique Julien.
Oui, alors par rapport à la démarche du film, effectivement, on voit Céline donner des séances de médiumnité à des sceptiques et uniquement à des sceptiques. Et en plus, elle donne ses séances les yeux bandés. Donc, dans ma démarche, il s'agissait de désamorcer les premières choses que tout le monde pense, à savoir que le médium voit dans les réactions physiques de son client des choses, et puis voilà, puis fait une lecture psychique simplement, d'où le fait qu'elle porte un bandeau. Et puis, dans le choix des sceptiques, c'est qu'on a tendance à croire que ça ne marche qu'avec les gens qui y croient. Or, c'est intéressant d'observer ce qui se passe avec des gens qui n'y croient pas, justement, voir qu'ils sont très rébarbatifs à la chose.
Mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose. Avec Narcisse Prat, par exemple, il ne se passe pas grand-chose.
Bon, alors Narcisse était
écrivain, libertaire, râleur.
Oui, un cas tout à fait à part, c'est qu'il ne s'est pas laissé faire la séance. Ce n'est pas que ça marche ou ça ne marche pas.
Mais après,
c'est qu'en fait, au bout de trois mots, il a coupé court en disant que c'était n'importe quoi. Enfin, il n'a pas pris du tout les informations. Donc, voilà, donc, ce qu'on a gardé dans le film, c'est la partie où il discute avec la médium.
Mais cette idée qui me semble est dans le livre, que si la personne qui vient consulter n'y croit pas trop, ça ne va pas marcher, ça ne tient pas debout, ça, parce que si ça marche, ça marche, même si la personne est réticente.
Oui, c'est bien ce qu'on voit dans le film, c'est que ça marche, alors pas à 100% bien évidemment, et heureusement, hein, mais ça marche avec des personnes sceptiques, bien sûr.
Parce que moi, c'est ce qu'on m'a rétorqué avec les tables, c'est parce que tu n'y crois pas, ça ne marche pas, c'est normal.
Oui, alors allez savoir si c'est une vraie raison ou si c'est cherchons une explication pour justifier que ça marche pas. Bon.
Mais alors du coup, le cerveau, cette chose qui vibre quand on est vivant et qui s'arrête avec la courbe qui s'interrompt sur les écrans, c'est quoi pour vous deux, Denis Gillian? Ça sert à quoi notre cerveau?
Alors j'aime beaucoup ce qu'en dit Jean-Jacques Charbonnier, qui est le médecin que j'interviewe, anesthésiste à Toulouse, qui est dans le film, qui est interviewé. Et à cette question, il répond finalement, le cerveau serait un émetteur-récepteur de conscience.
Oui. Un poste de radio
un poste de radio. Voilà. Et les médiums utilisent aussi des termes en lien avec la radio, c'est un joli clin d'œil. Ils disent, finalement, ils se mettent dans un état de conscience modifié quand ils discutent avec des défunts, qui leur permettent d'être sur d'autres fréquences, des fréquences où on les entend. Et Charbonnier dit exactement ça. Il dit finalement, le cerveau, c'est un émetteur-récepteur de conscience.
Alors, c'est
la conscience
quoi,
étant
c'est un état vibratoire. C'est ces fréquences, Denis Gillian, qu'on méconnaît.
Alors, c'est difficile pour moi de vous l'expliquer, je ne suis pas physicienne. Ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, ce serait une pensée, par exemple, qu'on émet, ou un son qu'on émet, voyage à une certaine fréquence vibratoire. Le médium, en fait, arrive à rejoindre cette fréquence vibratoire. Je suis incapable de vous expliquer ce qu'elle est, au fond.
Mais ça m'intéresse ce que vous en avez retenu.
Mais le médium rejoindrait cette fréquence vibratoire qui permet de faire voyager la conscience, l'information, le son. Et actuellement, au CERN, enfin, tout à fait dernièrement au CERN, ils ont découvert une particule qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Pour un physicien, ça veut dire ça, qu'effectivement, on pourrait voyager dans le passé, le présent et le futur. Un physicien quantique, il faut que je précise quand même, parce que sinon je vais vexer tous les physiciens qui n'y croient pas. Mais les physiciens quantiques, en fait, disent qu'on peut voyager dans le temps, parce qu'à partir du moment où une particule voyage plus vite que la vitesse de la lumière, pourquoi notre pensée ne pourrait pas le faire? Et là, on arrive dans des dimensions où le médium pourrait tout à fait voyager dans le passé, le présent, l'avenir, simultanément. Donc là, c'est intéressant, de nouveau, comment ça marche exactement? Moi, je ne sais pas. Mais là, la physique quantique, les physiciens quantiques et les médiums se rejoignent. Ce qui est une piste d'exploration passionnante pour les années à venir.
Ce sont des hypothèses, hein, tout ça. Mais c'était très intéressant de découvrir cette affaire vibratoire, je trouve, de dire que voilà, il existe d'autres mondes qui sont à un autre niveau vibratoire, ou un autre monde, en tout cas. Disons, je dis d'autres au pluriel, mais je devrais dire un, parce que les médiums parlent d'un autre monde qui serait là autour de nous, dans un autre niveau vibratoire. Et quand vous allez à l'école suisse de médiumnité à Neuchâtel, vous apercevez que c'est la première chose, un peu, je crois, que les étudiants de cette école apprennent, c'est à modifier leur taux vibratoire de manière à il y a un certain taux, il y a un certain taux pour faire la guérison spirituelle, il y a un autre taux pour être en contact avec les défunts, et voilà, ils vous expliquent ça. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça signifie.
Mais vous, Denis, là encore, qu'est-ce qui vous en reste? C'est votre filtre qui m'intéresse, sinon je les aurais invités directement.
Alors, dans les séquences que j'ai filmées, ce qu'on peut voir, c'est que pour faire monter l'énergie d'une salle, par exemple, ils n'hésitent pas à mettre du rock, de la musique rock à fond, et à rire, à blaguer, mais finalement comme une classe d'enfants excités à l'école, pas autrement, ce qui fait monter le taux de vibratoire. Et à ce moment-là, une fois que cette vibration est très très forte, ils parviennent par exemple à faire de la médiumnité dite physique, à savoir à faire bouger des tables. La médiumnité physique demande beaucoup d'énergie.
Mais les magiciens aussi, ils arrivent à faire bouger les tables.
Ouais, mais pas de la même façon. Il y a des études qui ont été faites, paraît-il, par des illusionnistes qui cherchaient justement à comprendre en quoi est-ce que l'illusion était d'usage chez les médiums. Et ils en sont arrivés à la conclusion que non, ça se passait autrement.
Lucas.
Pourquoi il n'y a que les femmes qui y croient?
Ah bon,
vous m'apprenez quelque chose là, je sais pas s'il y a que les femmes.
J'exagère, mais c'est frappant, je trouve, en tout cas dans mon entourage direct. Ou...
Alors, Maud Christen, qui est une voyante française que j'aime bien, que je trouve intéressante, l'explique par le sixième sens. Elle dit finalement, peut-être que les capacités médiumniques ne seraient pas autre chose qu'un bon sens, un sixième sens, de l'intuition, etc. Et on dit souvent que les femmes sont plus intuitives. À ça, moi j'y crois volontiers.
C'est pas un de ces clichés sexistes qu'on inculque aux femmes depuis toute petite, comme on leur donne du rose, puis on dit qu'elles sont plus sensibles, plus fortes pour les langues.
Moi, je pense que le cliché, il affecte plutôt les hommes qui croient qu'ils doivent surtout pas s'intéresser à quelque chose qui serait pas sérieux, qui serait pas bon pour leur image.
Vous restez Lucas, hein, parce que vous avez toujours des bonnes questions. On va écouter une chanson. Alors ça, c'est une chanson qui tombe à pic, c'est choisi toujours par notre programmatrice, c'est Jean-Louis Aubert. Et alors Jean-Louis Aubert raconte que c'est la première fois qu'il écrit des chansons quand il perd son papa, juste après l'enterrement de son père. Suite à de nombreux décès proches, il a eu vraiment l'impression que, au fond, ses chansons lui étaient dictées d'une certaine façon.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter.
sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les seuls et là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Testez aux radios matinales. Je veux danser. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, charge la mort, laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter, je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain je m'y remets. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est la rigolade. Chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait.
Nos invités ce matin, Denise Julien, cinéaste indépendante, et Alain Maillard, journaliste et animateur de La Ligne de Cœur, pour parler de ce film Médium, d'un monde à l'autre, avec ce site pour avoir des informations sur les dates précises, si ce n'est qu'il soit de manière permanente au cinéma Bellevaux à Lausanne, www.medium-lefilm.com. Donc un film et un livre publiés chez Favre. Si on entre plus dans le détail, voilà, on part du postulat qu'on adhère à cette vision de Céline, vision spiritualiste. On essaie de un peu de décrypter ce monde spirituel. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Comment ça marche, ce monde spirituel?
Alors, ce que Céline et la plupart des médiums en disent, c'est qu'ils travaillent avec des guides spirituels et ils développent un langage commun entre ces guides et eux. Le langage pouvant être soit visuel, si on est clairvoyant, ou auditif, si on est clairaudient, ou sensitif, si on est clairsentant. Il y a toute une façon de recevoir les informations de la part des médiums. Donc, il développe un dictionnaire, en fait, un capital symbolique avec leur guide, qui ensuite va faire la transmission avec des défunts.
Oui, je voudrais préciser, parce que ça me semble important, c'est-à-dire que Céline Bozon nous dit qu'elle ne reçoit pas des informations précises, elle n'entend pas des phrases, donc elle reçoit des images symboliques qu'elle doit interpréter. Et la difficulté, elle est là aussi, dans l'interprétation.
Parce que ça peut être soit son imagination, soit pour de vrai.
Est difficile, ouais, dit-elle, de faire distinguer parfois entre l'imagination et ce qu'elle recevrait du monde spirituel, pour employer son vocabulaire. Et ensuite, il y a des fois, elle essaye une interprétation et puis elle peut se tromper. Alors, est-ce que c'est le message qui n'existe pas? Enfin voilà, chacun peut interpréter à sa manière, mais elle en tout cas explique très bien cette difficulté, je trouve. Denise?
Donc les guides qui parlent au médium, qui doit transmettre et traduire.
Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, Céline fait vérifier par deux fois l'information quand ça vient d'un guide. Donc au moment où elle transmet à un client, elle est absolument certaine que ça vient du monde spirituel. Il n'y a pas de flou artistique entre son imagination et les informations du guide spirituel au moment où elle les aimait. Par contre, c'est des années et des années de formation pour arriver à à cette distinction. Donc il y a les guides,
mais,
il y a
mais
les défunts.
Mais c'est qui ces guides? C'est qui? Ils viennent d'où? C'est l'ange Gabriel? C'est qui?
Ce seraient des âmes qui sont incarnées sur Terre de multiples fois jusqu'à devenir sages, jusqu'à n'avoir plus besoin de s'incarner.
Donc un peu réincarnation indienne.
Mais alors tout à fait, voilà. Et là, on retrouve les grandes traditions. Hein. On retrouve l'Inde, l'hindouisme, le bouddhisme. C'est quelque chose qui finalement est connu de cette hiérarchie de l'au-delà. Enfin, les médiums n'inventent rien, je dirais. Mais c'est un mélange de différentes sources, de différentes religions. Il y a un doux mélange entre le bouddhisme, la religion chrétienne.
Et alors les guides traduisent au médium ce que veulent dire les défunts.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ce vocabulaire, comme le soulevait Alain, est très difficile à acquérir. Hein, les guides transmettent des images, des sons, etc. Mais le médium, il doit interpréter. C'est suffisamment compliqué d'établir un mode de communication pour ne pas pouvoir le faire chaque fois qu'il y a un défunt nouveau qui débarque. Donc ça veut dire que le médium travaille toujours avec les mêmes guides. Or, qui sont-ils? Ça varie d'un médium à l'autre. Céline dit qu'en général, il est très difficile de les reconnaître. Parce qu'à partir du moment où ils se font reconnaître, ça induit quelque chose, ça conditionne le médium. Donc elle, par exemple, n'avait pas forcément envie de savoir qui ils étaient. Elle en a identifié un parmi tant d'autres. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que c'est pas les mêmes guides qui viennent selon qu'elle a besoin de guérir, ou selon qu'elle fait de la peinture, ou selon qu'elle fait... vous parliez tout à l'heure d'écrire des chansons inspirées. Pour elle, y a des guides qui nous permettent d'écrire des chansons et faire de l'art, d'autres qui nous permettent
mais
de
alors,
communiquer.
Mais alors, ça veut dire que dans ce monde spirituel, donc il y a les guides. Alors, bon, ce qui me dérange un peu, c'est qu'apparemment, il y a une hiérarchie des guides, il y a les guides supérieurs, bon ça j'aime pas bien ça. Et puis alors il y a cette flopée de défunts qui se côtoient les uns les autres pour l'éternité. Ça doit être terriblement ennuyeux d'être installé là-bas pour l'éternité.
Ça je sais pas répondre. Oui, probablement, je sais pas. Mais
apparemment il y a trop de monde maintenant parce que tous ces défunts, enfin ça fait un monde fou.
Ils se réincarnent. Si on part du principe en fait que les gens se réincarnent, ça fait pas un monde fou dans l'au-delà. Hein, il y a une espèce de transit comme ça entre la Terre, l'au-delà. Et qui sait, il y a peut-être plein de planètes où on peut aller. On ne sait pas. Hein. On parle toujours de deux mondes, mais il y en a peut-être 150 000.
En limace martienne, ça me plairait bien, c'est pour une prochaine.
Et puis alors,
attention.
comment ils font ces esprits si, mettons, voilà, moi j'ai envie de, par l'intermédiaire du médium, de rencontrer ma maman, mais mon petit frère à Strasbourg, au même moment aussi, la maman, elle peut être aux deux endroits en même temps, ça marche comment?
Oui, alors ça, c'est une question que j'adore, qui était vraiment une question importante pour moi quand j'ai abordé ce concept de l'au-delà. Mmh. Alors, c'est Hannes Jacob, le fondateur de l'école Fréquence, qui m'a donné la réponse la plus convaincante pour moi. Quand je lui ai posé la question, il a pris un verre d'eau, il a mis sa main dans l'eau et il a fait gicler tout plein de gouttelettes. Et il m'a dit, regarde Denise, dans chacune de ces gouttelettes, il y a l'essence de l'eau. L'essence de l'eau n'a pas été modifiée parce que j'en fais 10 gouttes. Elle reste la même. Et finalement, le fait qu'on enferme l'eau dans un vase, on pourrait y voir notre vie sur Terre. On est enfermé dans un corps et on est enfermé dans un espace-temps linéaire. À partir du moment où on décède, on perd ce corps, on perd le verre au fond, et on n'est plus enfermé dans un espace-temps linéaire. Ce qui veut dire qu'une fois décédé, on aurait le don d'ubiquité. On pourrait être tout partout. Effectivement, à la fois, on pourrait être en train de se réincarner quelque part, en train de discuter avec je sais pas qui, avec notre maman à Tombouctou, notre frangin à Châtel-Saint-Denis, tout en prenant un cours avec l'archange Gabriel. Peut-être.
Mais ça a quelque chose d'angoissant. Ça peut avoir quelque chose d'angoissant aussi d'imaginer tous ces défunts qui nous surveillent ou qui sont là-haut. Enfin, moi, ça m'oppresse à un moment donné.
Oui, c'est très important, la notion de surveillance. Alors ça, il faut, c'est fondamental. Ce que les médiums disent, c'est qu'ils ne nous surveillent pas. C'est un mode vibratoire dans lequel on doit se mettre pour communiquer avec eux.
Mais qu'est-ce qu'ils font avec nous alors? Enfin, ils sont là pour quoi?
Si on en émet la demande, ils peuvent nous aider. Seulement si on le demande. Si on n'a pas de demande, ils ne peuvent pas intervenir dans notre monde. Donc cette idée qu'ils nous surveillent, qu'ils sont là tout le temps, qu'ils interviennent pour un oui, pour un non, non. D'après les médiums, il faut vraiment demander. Et par trois fois dans le film, je me suis amusée à demander des messages pour les spectateurs, à travers une transe, à travers de la TCI et à travers une planche Ouija.
TCI,
c'est la transcommunication instrumentale. Ce sont des médiums qui essayent de discuter avec l'au-delà via des micros, des magnétophones. La planche Ouija, ce sont des esprits qui, en fait, montrent des lettres de l'alphabet et ça finit par former des phrases écrites. Et par trois fois, le message pour les spectateurs du film et les lecteurs du livre était « Il faut demander, si vous ne demandez pas, nous n'intervenons pas. »
C'est bizarre ça, ils pourraient s'occuper de nous sans qu'on leur
leur demande. C'est pire que des parents, finalement.
Mais si ils s'occupaient de nous sans qu'on leur demande, ce serait terriblement intrusif. Moi, c'est ça qui m'angoisserait complètement.
C'est vrai. Lucas. Ah non, pardon.
Non, mais si, mais je me disais qu'il y en avait quand même qui bougeaient des armoires normandes chez nous sans qu'on leur ait rien demandé. Donc, ils sont un peu intrusifs aussi.
Parce qu'ils ont besoin d'aide. Parce qu'ils ont besoin d'aide. Ce qui est autre chose que de s'occuper de notre vie. C'est pas qu'ils viennent voir comment on dort et si on a mis notre pyjama. C'est qu'ils viennent dire à l'aide, on a besoin de partir. On a besoin d'être aidés.
Mais oui, Madeleine, j'aimerais revenir sur votre question à propos de l'angoisse que ça peut susciter. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu en faisant cette exploration. C'est que c'est un peu comme un choc culturel important. Si, peut-être que vous aurez peur d'aller en Inde. Peut-être que vous aurez peur sur place parce que le choc culturel est tellement important. Vous pouvez aussi l'aborder avec la curiosité et l'enthousiasme de découvrir une autre façon de concevoir la vie, les rapports entre les gens, le sens de la vie. C'est un peu ça aussi, ce monde des médiums. Pour moi, ça a été une exploration dans un autre monde, un autre univers culturel, si vous voulez. Je trouve ça passionnant. Bien sûr qu'on peut aussi avoir des inquiétudes, mais au fond, c'est à chacun de voir comment on appréhende la chose. Moi, j'ai plutôt l'enthousiasme de la découverte, personnellement.
On va se quitter comme ça, non sans avoir mentionné, c'est vrai qu'on aurait pu faire un chapitre sur l'histoire du spiritisme et de ce monde. On aurait pu évoquer Victor Hugo et ses tables et sa conversation avec...
Spiritualisme, spiritisme, voilà. Médiumnité, c'est pas tout à fait les mêmes choses.
Sa Léopoldine morte avec qui il tentait de correspondre. Mais tout ça, c'est dans votre livre, à tous les deux. Donc, on peut s'y reporter. Et on va se quitter parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dans la tête. Donc, j'ai envie de laisser nos auditeurs un peu avec toutes ces questions à méditer. Et qu'on se quitte avec une chanson en rappelant que le film est sur de nombreux écrans. www.medium-lefilm.com pour avoir toutes les rendez-vous dans les salles. Et puis, le livre... Denis Gillian, Alain Maillard, médium d'un monde à l'autre, et c'est publié chez Favre.
Tell me, elegant lady, what can I do to have a girl like you by my side when I wake up in the morning or late at night? Tell me, elegant lady, what can I do? Dance with you and after snake under your skirt for the night. But girls like you ain't for guys like me, and guys like me, oh, we already married or we simply can't. Tell me, elegant lady, what can I do to have your legs around me and your perfect body by my side? Your whispers in my ear say, you're the only
one.
Obtenir une copie de l'émission, composez dès maintenant le 026 323 24 24.
En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, parce qu'au fond, c'est vrai, vous êtes toujours en quelque sorte les porte-paroles des gens que vous avez rencontrés, sans forcément partager à 300% ce qu'ils disent. Merci d'avoir accepté l'invitation, Denis Gillian et Alain Maillard. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain entre 10 et 11, et il est 11h, et c'est sur la première.